Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Christophe Paco. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 6 août pour RTL Soir. Avec à la une de l'actualité, une semaine de rodage à venir pour maîtriser les contraintes inhérentes à l'extension du pass sanitaire et ce, dès lundi prochain, à la veille de nouvelles manifestations anti-vaccin. Les Jeux Olympiques de Tokyo, ça passe pour les filles du hand. Finale dimanche face à la Russie, ça a craqué pour les demoiselles du basket qui tenteront, elles, d'obtenir une médaille de bronze. Comme tous les soirs, on refait les Jeux, 18h30, avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Et si Messi, si le génialissime Léo Messi débarquait à Paris cet été? Oui, c'est une vraie question. C'est une des possibilités, alors que ce matin, on apprenait son divorce d'avec son club de toujours, le Barça. Messi en Ligue 1, ce serait un joli coup quand même, à l'orée d'une saison qui débute ce soir par un bon vieux classique Monaco-Nantes et avec du public en tribune. Et vous le savez, ça, ça change tout. Le choix de Messi, on en reparlera dans 10 minutes avec Frédéric Traini, consultant Canal en Espagne. Il sera en duplex avec nous de Barcelone, qui lui a consacré, Frédéric Traini, en tout cas un très bel ouvrage. Allez au Messi, ça s'appelle Messi, une vie en grand. Ce soir, la 30e nuit des étoiles qui débute. Qu'allons-nous voir? Que pouvons-nous encore apercevoir? On sera tout à l'heure avec Clément Plantureux dans 20 minutes. Il est le co-organisateur de la nuit des étoiles. On descend un peu plus bas. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La météo, c'est clair, toujours aussi triste, même si on s'y est un petit peu préparé quand même. On sait que j'allais avoir un week-end pourri. Il n'y a vraiment rien à espérer?
Alors non. Et puis demain, okay, ce sera même pire, parce qu'aujourd'hui, on a pu apercevoir le soleil même sur les régions du Nord. Demain, franchement, c'est raté. Et en plus, de gros orages vont passer dans la soirée et dans la nuit. La barrière pyrénéenne, gagner le massif central, la région Rhône-Alpes, remonter jusqu'au Jura. Et figurez-vous que ce sont des orages assez costauds qui sont prévus, avec de la grêle, de fortes rafales de vent. À l'arrière de tout cela, entre le Nord, l'Île-de-France et toutes les régions de l'Ouest, un ciel nuageux, des averses orageuses fréquentes, du vent près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Sur les bords de la Méditerranée, quelques averses également, excepté en Corse, où il fera beau toute la journée. Les températures demain matin, 12 degrés à Brest, en plein été, c'est super. Bien, c'est 13 cool à Abbeville et Limoges, 15 à Nancy dans l'après-midi, comptez 18 à Cherbourg, 21 à Strasbourg et La Rochelle, 22 à Paris, 23 à Montauban, 29 à Marseille, 32 quand même pour Ajaccio.
Merci mille fois Valérie Quintin. Rendez-vous 18h30 pour prendre encore des nouvelles du ciel avec vous, juste après avoir évoqué, je le disais, la 30e nuit des étoiles. Et après, on parlera plateau télé avec Laurent Marsic. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
Vous êtes peut-être au volant en ce moment à nous écouter. Merci d'être fidèle à RTL en ce grand week-end de chasse et croisée. Prudence, on l'a entendu, avec cette météo signée Valérie. Vigilance, encore et toujours, ça c'est sûr. On fait sans plus tarder un point sur vos conditions de circulation. Avec vous, Sarah Lou Bacouche. Bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe. Alors cette journée, oui, elle était dense. Le pic du trafic a été atteint vers 17h avec 600 km de bouchons cumulés. Et vous êtes encore nombreux sur les routes, notamment en vallée du Rhône. C'est là que se concentre, comme d'habitude, le plus gros du trafic à l'heure actuelle. Donc si vous descendez l'autoroute A7 en direction de Marseille, il faut être patient avec ce gros point de difficulté à hauteur de Valence. Vous circulez en accordéon sur une bonne quarantaine de kilomètres de Saint-Barthélemy-de-Valse à Livron-sur-Drôme. Attention à cet accident à hauteur de Mercurolles. En tout, comptez 2h30 pour aller du sud de Lyon à Orange. C'est une heure de plus qu'en temps normal. Mais si vous avez quand même décidé de partir ou de rentrer de vacances aujourd'hui, eh ben vous avez fait le bon choix, parce que demain, Christophe, la journée, demain, la journée, elle est classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé. C'est même noir en vallée du Rhône. Donc courage à vous tous qui allez prendre la voiture demain.
Vous avez bien raison, on vous retrouve à 19h. Et puis surtout, encore et toujours, vigilance au volant sur la route, sur l'autoroute. Ce matin, un adolescent a trouvé la mort dans un accident sur l'A75 dans le Cantal, tout près de Saint-Flour. Il était dans un minibus qui transportait des enfants en colonie de vacances d'Amiens vers le Cap d'Agde. Le minibus a percuté un poids lourd. 7 autres jeunes passagers ont été blessés et sont tous ce soir en observation à l'hôpital de Saint-Flour. À Amiens, d'où sont originaires la plupart de ces jeunes vacanciers, l'émotion était forte, très forte. Tout à l'heure, à l'image du témoignage, écoutez-le, de la maire de la ville, Brigitte Fourré.
C'est dans le cadre d'un centre animation jeunesse que ce camp de vacances était programmé au Cap d'Agde. Alors c'est effectivement pour des jeunes qui ne partent pas en vacances dans d'autres conditions. On est tous sous le choc, complètement abasourdis par ce qui s'est produit, et dans l'attente aussi du retour des jeunes qui ne vont évidemment pas poursuivre leur séjour. Le retour puisse se faire dès demain, parce qu'aujourd'hui, il y a encore quelques jeunes qui sont hospitalisés par précaution, si vous voulez, c'est un jeune qui est décédé dans l'histoire. Donc, évidemment, on est complètement bouleversé. Du coup, ça nous amène aussi à annuler des départs qui devaient être prévus là, Cap d'Agde d'ailleurs. On les annule et on va les remplacer par des séjours plus proches parce que moi, j'imagine volontiers que les parents ne vont pas être frais à laisser partir leurs enfants loin, quoi, parce que tout le monde est complètement dans la sidération, quoi.
Madame la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, témoignage recueilli par Valentin Boisset. Ce vendredi, c'est donc jour de départ dans un sens, comme de retour dans l'autre, et des vacanciers qui bouclent en ce moment même leur valise pour un retour, style, vous savez, travail, maison. Freda Ivaille a rencontré donc des vacanciers, eux, sur le départ à Sainte-Marguerite.
Oui, derniers instants, dernière photo du bord de mer pour Roger et son épouse qui, après 15 jours de vacances, disent au revoir à la Normandie et, comme le dit cet Alsacien...
Les gens me disaient « Oh, la Normandie, elle est verte ». J'ai compris pourquoi.
Et oui, parce que côté météo, ces vacanciers attendaient beaucoup mieux de leur séjour dans ce gîte situé face à la mer.
Oh, on n'a pas été gâtés par le temps, on est au mois d'août là, c'est vraiment catastrophique, hein. Catastrophique.
Reste que la Normandie et sa météo capricieuse ont fait le plein depuis le début de l'été. Antoine range sa caravane. Le retour dans le Pas-de-Calais, c'est maintenant.
Ben oui, tout plié, tout rangé, emballé et partir.
Bon, vous n'avez pas été gâté par le temps. Hein.
Non, mais sinon c'était bien quand même. On a l'habitude donc.
Bon, vous voulez se remballer ?
Ouais, parce qu'il y a du boulot.
Et pendant qu'il plie le haut vent un peu humide, c'est Edith, la belle-mère, qui nous confie.
On a réussi à s'occuper quand même. Par contre, j'ai pas mis un doigt de pied dans la mer ni dans la piscine.
Bon rangement.
Merci.
Et bon retour.
Merci.
Il faudra revenir aussi. Hein. Merci beaucoup, Frédéric Veil. Faites-vous vacciné, Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui dans une 12e vidéo, la dernière promet-il postée depuis sa résidence de vacances du fort de Brégançon. Il a lancé donc Emmanuel Macron un appel pressant à la vaccination, mais aussi remercier les Français de bien suivre les règles alors que le pass sanitaire étendu entre en vigueur, vous le savez, lundi. Passe de rigueur dans les cafés, restaurants, les trains, les avions, les bus longue distance, les centres commerciaux, encore les hôpitaux. Et le gouvernement rassure d'un autre côté aussi les usagers comme nous. Gabriel Attal, son porte-parole, annonçait ce matin qu'il y aura bien une semaine de rodage. Concrètement, bonsoir à vous Thomas Proutot.
Bonsoir.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de PV, pas d'amende dans l'immédiat, c'est ça?
Alors, le détail de ce rodage sera connu d'ici quelques heures. Le ministère de l'Intérieur doit en effet envoyer des instructions précises aux forces de l'ordre et aux agents habilités à verbaliser le défaut de passe sanitaire, comme les gardes champêtres ou les contrôleurs SNCF notamment. Il devrait être appelé à faire preuve d'une certaine tolérance jusqu'au 16 août en cas de défaut de passe sanitaire. Reste à voir si cette mansuétude sera totale ou partielle. Dans les TGV notamment, il semble assez risqué de tenter le voyage sans passe à partir de lundi. Et le rodage n'exclut pas les contrôles. Au contraire, il devrait même être assez nombreux afin d'accompagner la mise en place des QR codes qui posent de nombreuses interrogations aux professionnels. On les a beaucoup entendus ici sur RTL.
Bien sûr.
Un rappel, le faux QR code ou le défaut de passe sanitaire, c'est 135 € d'amende au minimum à partir du 16 août.
Pas inutile de le rappeler, Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Demain, nouvelle journée d'action contre le passe sanitaire, anti-vax, anti-passe dans la rue, avec pas moins de 172 manifestations programmées dans toute la France, dont 5 à Paris. Et puis la décision du Conseil est intervenue hier en pleine nouvelle vague d'épidémie. Le nombre des hospitalisations a continué d'augmenter en France ces dernières 24 heures avec 1420 patients en soins critiques. Il est 18h08.
RTL à Tokyo.
Du 50-50 pour le sport collectif aujourd'hui, du bon, du très bon presque, même du classique pour nos handballeuses. Nouvelle finale, la deuxième consécutive, Isabelle Langer pour le hand féminin aux Jeux Olympiques.
Et il va y avoir de la revanche dans l'air, Christophe, car les Bleus retrouvent la Russie comme au premier tour de ce tournoi olympique. Elle s'était inclinée d'un but. Surtout, c'est le remake de la finale des Jeux de 2016. Et je peux vous dire que cette fois-ci, les filles d'Olivier Crumbles n'ont pas envie de se contenter d'une médaille d'argent. Elles affichent une détermination mais aussi une joie de vivre qui fait plaisir à voir et qui contraste avec leur début de prestation à Tokyo. En fait, vous savez, il y a eu une sérieuse explication entre elles la semaine dernière et pour Philippe Bana, le président de la Fédération Française de Handball, eh bien cela a tout changé.
Oui, le handball est coutumier de ce genre de truc, la discussion,
le mano à mano, se dire des vérités à la figure, avoir un vrai discours humain qui se galvanise. Oui, c'est arrivé 10 fois dans l'histoire et celui-là, il est vraiment fondateur. Elles ont su trouver les ressources pour se dire ce qu'elles avaient à se dire, pour se restructurer et retrouver cette espèce de feu sacré qui doit animer une équipe qui veut une médaille. Quand il y a ce feu sacré, tu es presque sûr d'aller au bout.
D'ailleurs, avant le début des Jeux, Olivier Crumbles, le sélectionneur, avait prédit que si ses filles parvenaient en demi-finale, elles gagneraient leurs 2 derniers matchs. Eh bien, on y est presque.
On y est presque, c'est superbe. Merci à vous Isabelle Langer. Du moins bon, malheureusement, pour nos basketteuses dominées en demi-finale par de virevoltantes japonaises, Nicolas Burnand.
Oui, face aux ogres japonaises, les tricolores n'ont rien pu faire. Devant au score lors de la première période, elles ont ensuite peu à peu sombré. Un rythme infernal imposé par leur adversaire. Une défense défaillante et un collectif inexistant, débordé, concédant jusqu'à 27 points d'écart. Les Françaises ne renoueront pas avec une finale olympique 9 ans après Londres en 2012. Pierre Siouta est le président de la Fédération française de basket.
Je suis un peu déçu parce qu'on aurait voulu faire une 5 sur 5. France-USA, finale olympique, fille garçon, c'est marqué l'histoire à jamais. Quoi. Comme on nous a mis du hand et puis du volley. Voilà, on passe à côté de quelque chose, c'est dommage. Après, on est tombé sur une équipe qui s'est vraiment sublimée, qui a été très adroit à 3 points, qui a beaucoup joué sans ballon, avec beaucoup de mouvements. On n'a pas su s'adapter, c'est un petit peu dommage. Il faut essayer de se ressaisir maintenant et puis aller chercher cette médaille.
Les Bleus n'auront que très peu de temps pour récupérer. Elles tenteront de décrocher la médaille de bronze demain face aux Serbes, contre lesquels elles avaient déjà perdu. C'était en juin dernier, en finale de l'Euro.
Un petit bronze, ça serait quand même pas mal par rapport aux 4 finales du sport co quand même. C'est juste hallucinant pour notre sport olympique, pour notre très belle délégation. Demain matin, justement, on peut même dire cette nuit, hein, 4h30, notez bien, 4h30 du matin, les garçons du basket vont tenter de s'offrir à la France ce fameux sacre olympique face aux formidables étoiles américaines, oui, les grandes stars. Et alors Benjamin Boucrich, vous êtes rendu tout à l'heure à Oops Factory, c'est l'un des fiefs des amateurs de basket au nord de Paris, et vous avez rencontré des as du rebond, du panier, du dunk, du alley-oop, prêts à mettre leur réveil visiblement demain matin, Benjamin.
L'heure est déjà réglée, l'alarme sonnera cette nuit à 4h du matin sur le téléphone de Christopher, même s'il risque d'avoir un peu de mal à ouvrir les yeux.
Honnêtement, c'est super relou, mais c'est parce que c'est une finale. Mais sinon, je pense pas que j'aurais regardé. Mais c'est une finale et c'est surtout c'est l'équipe de France. Je sais que je vais me réveiller, en tout cas, j'espère.
Finalement, malgré la fatigue, malgré les cernes, le plaisir de voir les Bleus en finale fera vite passer la pilule pour Théo.
Pour moi, le basket, c'est tout. C'est plus qu'une passion. Et de dire que mon pays natal, il va en finale, je trouve ça incroyable.
Et en plus du café, c'est le suspense qui pourra aider Jordan à rester debout, puisque la France affronte une équipe des États-Unis remontée comme jamais après la défaite au premier tour.
C'est un rouleau compresseur. On a Kevin Durant, c'est des joueurs qui sont au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance. Donc ça va être complètement différent. Ça sera à nous, l'équipe de France, d'être à leur meilleur niveau pour essayer de décrocher cette victoire.
Et si cette finale se joue à 4h30 du matin, c'est pour satisfaire le public des États-Unis où il sera 22h30. Une raison de plus pour les Bleus de battre cette équipe américaine et empocher la médaille d'or.
Vous pouvez me rendre le ballon ? Oui, merci, merci beaucoup. Le match, donc 4h30, et on refait les jeux, comme tous les soirs, évidemment, sur RTL, 18h30, 19h, avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. 18h13, le grand retour de la Ligue 1. Ça y est, c'est pour ce soir, c'est sur RTL, en plus, c'est gratuit. Eric Silvestro, bonsoir.
Bonsoir, merci pour la alley-oop, la passe décisive.
Ah, c'est joli ça,
ça me plaît.
Magnifique coupe de cheveux, c'est un pari. Eric Silvestro en studio avec des cheveux tout blanc.
Il y a des hommes de parole qui tiennent leur
Paris, l'Italie a gagné
l'Euro. Fantastique. Forza Italia.
Retour de vacances pour vous donc, comme pour les joueurs, et surtout retour du public avec un slogan qui fait du bien. Voilà, c'est le petit slogan qu'a pendu la Ligue 1. Avec vous, ça change tout.
Effectivement, Christophe, avec les supporters, les spectateurs, les proches, même, non seulement ça change tout, mais c'est surtout beaucoup mieux. Dans la majorité des stades, il n'y aura d'ailleurs pas de jauge, sauf à Montpellier et Monaco. En revanche, la reprise de la saison de foot remake, mise en application du pass sanitaire, les spectateurs devront ainsi présenter, en plus de leur billet, un schéma vaccinal complet, un test négatif ou encore un certificat de guérison. À Metz, dimanche, par exemple, ceux qui le souhaitent pourront se faire dépister gratuitement avant la rencontre contre Lille.
Coup d'envoi ce soir donc avec vous, Eric Silvestro, pour ce Monaco-Nantes au stade Louis II.
Oui, avec Mickaël Lefebvre au commentaire sur RTL, les Monégasques 3e de la saison dernière qui veulent confirmer leur bon début de saison avec le tour préliminaire réussi en Ligue des Champions face à des Nantais, eux soucieux de ne pas revivre les angoisses de la lutte pour le maintien. Ça fait une bonne raison, Christophe, de chaque côté, de bien débuter.
Oui, belle saison à débuter avec vous. Et j'ai une bonne raison aussi d'être motivé pour, je sais pas, un beau petit transfert cet été. Un
Lionel
petit
Messi,
ouais.
Pourquoi
Monaco,
pas
Monaco, Nantes
c'est
ou Paris
Lionel Messi.
C'est qui?
Vous allez nous expliquer.
Justement, on va parler avec celui qui a commis l'ouvrage et qui s'appelle Messi, une vie en grand. C'est Frédéric Traigny qui est en duplex avec nous de Barcelone. Bonsoir à vous, Frédéric Traigny.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant du groupe Canal Plus en Espagne. D'abord, ça doit être un séisme de savoir que Léo va quitter la maison. Il va quitter papa et maman parce que là, il quitte le Barça où il a passé quand même 20 ans de sa vie.
Bah oui, c'est un séisme, d'autant que depuis plusieurs semaines, eh bien, Joan Laporta, depuis sa réélection, nous vendait l'idée que ça y est, c'était fait, ça, c'était pratiquement, il manquait plus que le papier et l'encre pour signer le contrat. Le clan Messi laissait entendre effectivement qu'il allait avoir un accord. Et puis, eh bien non, hier, à la dernière minute, le président du Barça a annoncé que, à cause de la Liga, à cause de la limite de la masse salariale de 160 millions d'euros, alors que le Barça en affiche une de 187 millions d'euros, eh bien Messi ne peut pas rester au FC Barcelone. L'année dernière, il voulait partir, il est resté de force. Cette année, il voulait rester et il est contraint de partir. C'est une douche écossaise pour les supporters qui en veulent beaucoup à l'ancienne direction. Qui a creusé beaucoup dans la caisse, hein,
bien
et
sûr.
Puis à Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football.
Sans rentrer dans les détails, mais on sait qu'en ce moment, il y a une sorte de bras de fer entre le foot espagnol et la Liga. Hein. C'est un peu comme nous, chez nous, avec les droits télé, avec la Ligue. Là, il y a un souci parce qu'il y a un fair play financier qui est peut-être trop élevé. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que c'est une sorte de bras de fer finalement engagé pour quand même garder Messi au bout du bout?
Alors, sur ce genre de dossier, vous savez comme moi qu'il peut tout se passer hein, dans les 10 jours qui viennent. Donc, je ne vais pas mettre ma main à couper aujourd'hui. Je vais rester prudent. A priori, ça paraît quand même très compliqué parce que, comme je vous le disais, Javier Tebas, le président de la fédération de la Ligue professionnelle de football, qui est un personnage, si on parle un petit peu de politique, c'est un personnage qui est quand même très, très lié à la droite conservatrice espagnole. Le président du Barça est très très lié au catalanisme indépendantiste. Enfin, c'est deux personnages qui ne peuvent pas beaucoup s'aider ou s'entraider et qui vont certainement jouer un bras de fer tout au long de leur
c'est
mandat
clair.
Respectif. Et donc ça paraît compliqué que la Ligue accepte de rendre service au FC Barcelone. Pour d'autres raisons, hein, mais pas que la politique, mais il y a aussi des raisons économiques.
Bien sûr. Vous êtes journaliste et auteur de Messi, une vie en grand. Plus grand pour Messi, c'est quoi? C'est Paris? C'est Manchester City? Ou est-ce qu'il y a un autre club capable de s'aligner? Parce que le salaire, c'est plus de 100 millions, quoi.
Moi, j'en vois pas. Hein. Manchester City, c'était une destination possible à cause, eh bien, de la présence de Pep Guardiola, à cause de la tirelire aussi du club. La présence de Kun Agüero aussi était un argument, mais Kun Agüero est venu au FC Barcelone. Donc, on pensait qu'effectivement, c'était encore un argument en faveur de la prolongation de Messi ici à Barcelone. Ben, il reste plus que le Paris Saint-Germain.
Ben hein, voilà, ben c'est fait alors. C'est bien d'annoncer ce soir en exclusivité sur RTL l'arrivée de Messi. Ben, moi, je pense que ça peut faire
sur le papier.
Sur le papier.
Sur le papier, en tout cas.
C'est ouais,
effectivement. En plus, il y a des arguments pour Paris. Ouais. Hein, Pochettino, Neymar,
Neymar qui
Di Maria. Le soleil parisien qui est moins beau que le soleil barcelonais, mais
oui.
Qui est moins pourri que le soleil de Manchester. Donc, c'est une forte possibilité.
C'est une forte probabilité. Merci mille fois, Frédéric Traigny, correspondant du groupe Canal en Espagne, journaliste et auteur de Messi, une vie en grand. Et Messi à Paris, ça fait toujours rêver.
RTL Soir.
Christophe Paco.
À 18h17, on va parler des premiers effets économiques hein, du pass sanitaire et cette obligation vaccinale qui a incité la coopérative Coperl, qui produit les jambons, vous les connaissez, Brocéliande et Madrange peut-être. Eh bien, les dirigeants de Coperl ont offert une prime de 200 euros à leurs salariés, vaccinés bien sûr, pour lutter de façon collective face à la Covid. Mesure annoncée en début de semaine aux 7400 employés. Sentiments visiblement divers et variés de ces derniers. Nicolas Bobby.
Cette prime de 200 euros à l'abattoir de Lamballe, même parmi ceux qui touchent un petit salaire, est loin de faire l'unanimité.
Je préfère être vacciné pour être tranquille après, et puis voilà. Mais chacun son avis. Hein.
C'est une honte. Bah parce que c'est une honte, c'est sous-loyer en fait. C'est acheter les gens, c'est tout.
Moi, je suis fait vacciner ce matin, la deuxième injection. Donc là, je donne un papier et puis je vais recevoir la prime.
Moi, je suis vacciné, les deux doses.
Est-ce que les vaccinés et les non-vaccinés vont se regarder en chien de faïence maintenant?
Ah, je pense pas. Franchement, je pense pas, non. Mais là, moi où je suis, l'ambiance est correcte.
Bon, après, ceux qui veulent pas être vaccinés, la prime de 100 euros, ils s'en foutent.
Mais moi, dans tous les cas, je me ferai pas vacciner. C'est pas normal d'être obligé ou d'avoir des primes pour avoir un vaccin. D'avoir de l'argent par-dessus ça en mettant notre santé comme si on était des cobayes, je suis pas du tout d'accord avec ça.
Légal ou pas, cette jeune intérimaire souhaite vraiment encaisser cette récompense.
Bah moi je suis vaccinée, je vais demander, oui, je vais demander à l'avoir. Ça va m'aider pour mes études.
Ainsi la direction de la Coperl entend participer activement à la démarche de prévention sanitaire incitant à la vaccination.
Nicolas Bobby à Lamballe dans les Côtes d'Armor.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et Et ce soir, elle nous vient de l'emploi avec une jolie croissance constatée. Pierre Herbulot, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Près de 240 000 créations d'emplois au deuxième trimestre, soit une progression de plus 1,2%. C'est l'INSEE qui publie ces chiffres aujourd'hui. Pierre, en clair, on a visiblement retrouvé le niveau d'avant la crise du Covid.
Exactement, c'est simple. Les voyants sont au vert. Partout, intérim, industrie, construction, des emplois sont créés dans tous les secteurs d'activité. Une bonne nouvelle, se réjouit la ministre du Travail Elisabeth Borne sur Twitter. Et c'est vrai que la progression est deux fois plus importante que ce qu'avait prévu l'INSEE. Ça confirme aussi la tendance enclenchée en début d'année avec déjà 100 000 emplois créés au premier trimestre. Dans le détail, le rebond le plus fort concerne le tertiaire marchand qui regroupe notamment les métiers de l'hébergement et de la restauration. Plus 1,7% d'emplois créés entre avril et juin, ça fait 195 000 postes supplémentaires. C'est facile à comprendre, réouverture des bars et des restaurants, les Français s'y rendent massivement, il faut embaucher. Alors oui, c'est bien, mais deux bémols tout de même. Dans ce secteur, celui qui a le plus souffert, il manque encore 40 000 emplois pour retrouver le niveau d'avant la crise. Mais surtout, ce qui inquiète les statisticiens de l'INSEE, c'est le variant Delta et la mise en place du pass sanitaire qui pourrait freiner d'ici la fin de l'année cette dynamique. On va le rappeler très positive.
Merci à vous, Pierre Herbulot, service économique et social d'RTL. Les incendies se poursuivent en Grèce et en Californie. 16 personnes légèrement brûlées ou souffrant de problèmes respiratoires ont été hospitalisés à cause des vents violents qui font toujours rage là-bas dans cette région européenne. On va y revenir tout à l'heure à 19h dans le journal de Mathilde Romagnan. Et dans un instant, dans moins d'une minute, on va avoir la tête tout là-haut. Ce soir débute la 30e nuit des étoiles. Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous pouvoir apercevoir? Notre invité, dans une minute, Clément Plantureux, il est le co-organisateur de cette nuit des étoiles. Merci d'être fidèle, RTL.
RTL Soir.
RTL Soir.
Christophe Pacaud.
Trentième nuit des étoiles, ça fait toujours rêver, on est toujours passionné depuis qu'on est petit, 7 à 77 ans et encore plus, voire moins. Avec nous, notre invité ce soir, Clément Plantureux, co-organisateur de cette fameuse nuit des étoiles. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On va voir quelque chose ce soir parce que le ciel est bas, le ciel est gris.
Ça se découvre. Normalement, on devrait pouvoir voir quelques petits astres, ouais.
Et il faut se positionner avec des grands astronomes, il faut monter dans des endroits où on peut être au plus haut, il faut être le plus près possible finalement des étoiles ou pas?
Non, pas forcément. Non, en fait, le principal, c'est de s'éloigner au maximum des lumières, des agglomérations. Mais si on se trouve en rase campagne, même si on n'est pas forcément en montagne, on peut très très bien voir le ciel. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut voir ce soir, par exemple? Parce qu'on a l'impression que le ciel est un peu pollué. Vous voyez, c'est un peu comme la route des vacances. Hein. Il y a des départs, des chassés croisés entre la station ISS, entre les satellites qui reflètent trop.
Alors oui, bon, alors effectivement, on pourra voir quelques satellites peut-être, voilà, dans le ciel. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est déjà la grande pluie d'étoiles filantes, voilà, qui a lieu chaque année durant cette période, ce qu'ils appellent les perséides.
Les perséides, c'est bien ça.
Voilà, exactement. Et on pourra en voir. Alors si on a vraiment un beau ciel noir, on peut en voir jusqu'à 100 toutes les heures. Voilà. Alors,
à partir de ce soir, vous dites.
Oui, à partir de ce soir, on peut en voir une bonne grosse dizaine, enfin plusieurs dizaines d'ailleurs à l'heure, et près du pic des perséides qui aura lieu entre le 12 et le 13 août, là on peut en apercevoir plus d'une centaine.
Toujours, ouais, alors, c'est toujours fascinant, pas, c'est fascinant.
Oui, c'est un des plus beaux spectacles qui a lieu dans le ciel durant cette période. Mais alors il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi les planètes. Il y aura Vénus qui apparaîtra juste après le coucher du soleil,
d'accord,
qui se couchera en gros une heure après. Et puis de l'autre côté, quand le soleil se couche d'un côté, eh bien, il y a Saturne et Jupiter qui se lèvent de l'autre. Et du coup, ça c'est quand même des très très belles planètes à observer. Alors déjà à l'œil nu, on peut facilement les reconnaître parce qu'elles sont très brillantes dans le ciel. Mmh. Mais en plus, si on a la chance de profiter d'un petit télescope ou d'une lunette astronomique, eh ben, on va pouvoir voir les anneaux de Saturne notamment ou les satellites de Jupiter.
Voilà. Oui, c'est assez incroyable. Concernant quand même, pour y revenir quelques secondes, hein, sur ce dossier, parce qu'on en parle beaucoup, j'écoutais Sophie Jousselin dans RTL Midi tout à l'heure, et Benita Serre qui nous parlait de ce monde là-haut, cette circulation et ces satellites qui font trop de reflets. Est-ce qu'on ne peut pas légiférer un jour pour dire qu'il y en a un petit peu moins ou qu'on éteigne les lumières pendant cette nuit-là?
Ah bah nous on milite pour, hein. On n'a pas beaucoup d'impact là-dessus, mais effectivement il faudrait que ça soit légiféré, effectivement, parce que ça obstrue les observations astronomiques, alors que ça soit pour les amateurs, mais aussi pour les professionnels, et puis au-delà de ça, même pour les astrophotographes qui essayent de prendre le ciel dans leur objectif, et bah, le temps d'exposition pour prendre des photos du ciel, il est souvent long, et donc on a de plus en plus de chances qu'un satellite s'immisce dans cette photo et fasse des stries pluie lumineuse en plein milieu de la photographie. Donc oui, c'est un problème pour pas mal de choses, mais même pour le secteur spatial, hein, parce que ça va devenir très encombré. Et du coup, voilà, il y aura des embouteillages dans l'orbite basse de la Terre.
On comprend. J'ai hâte de voir ces Perséides ce soir, grâce à vous, de nous avoir rappelé. Évidemment que ça va se passer pendant quelques jours, pendant ce mois d'août. Voilà, puis ma petite grande ours, mes petits oursons, voilà tout ça, tout ce que j'aime finalement. Merci d'avoir été avec nous, Clément Plantureux, co-organisateur des Nuits des Étoiles. Et ce soir, vous étiez notre, je sais pas, notre monsieur étoile, notre monsieur star. Starman, l'homme des étoiles, avec David Bowie dans un instant. L'homme des étoiles à la télé, Laurent Marsic, à tout de suite.
RTL Soir.
Sucré. RTL Soir.
Christophe Paco.
On met une oreille sur votre plateau télé du soir et de ce week-end en plus. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir Christophe.
Ce soir c'est simple, il y a un choix.
Oui, alors, voilà. Ça, pour deux programmes, en tout cas, diffusés sur Arte, une chaîne, effectivement. Le premier est à 20h55. C'est un petit bijou cinématographique intitulé Sing Street. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un film musical sorti en 2016, signé John Carney. L'histoire d'une bande de potes dans une Irlande ravagée par la crise économique. Des ados qui vont se sauver par la musique. On est à Dublin, quartier pauvre, des parents dont le cœur balance pour certains entre battre leur enfant et sombrer dans l'alcool quand ils ne font pas les deux en même temps. Et au milieu, il y a Connor et ses potes, nouveau collège, et surtout une fille qui traîne devant l'établissement et qu'il veut absolument séduire.
Oui ou non, t'as envie d'avoir une vraie relation sexuelle?
Ouais.
Quoi? La fille, c'est bien pour elle que tu fais ça.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et tu veux la voir en te servant du talent d'un autre? Tu déconnes.
On vient de commencer. Avant de jouer, il faut apprendre.
Tu crois que les Sex Pistols connaissaient la musique? Vous n'avez pas besoin de savoir jouer. Vous êtes qui, Steely Dan? Ce que vous devez apprendre, c'est à ne surtout pas savoir jouer. C'est ça le truc, c'est ça le rock'n'roll. Et ça, ça demande de la pratique.
C'est un film plein d'espoir, un petit bijou qui fait du bien. Et puisqu'on est sur Arte, bon, on va y rester en seconde partie de soirée. La chaîne offre un documentaire multi-récompensé signé Ron Howard. Là encore, il est question d'une bande de potes, quatre garçons de Liverpool, les Beatles. Mmh. Ce documentaire couvre la plus prolifique période de la carrière des Beatles, entre début janvier 63 et fin août 66, leur conquête de l'Amérique notamment. Dans ce documentaire très nourri de témoignages et d'images d'archives, il y a un témoignage, moi, que j'ai retenu, c'est celui de l'actrice Whoopi Goldberg.
Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles.
On regardait Ed Sullivan tous les dimanches soirs avec mon frère et ma mère. Il n'y avait même pas de débat, c'était la routine. Et je n'avais jamais vu personne comme eux. Ça a été une révélation. Quand on est gosse, on ne réalise pas que c'est un moment clé. Mais c'était comme si le monde entier s'était éclairé d'un coup. Soudain, j'ai senti que je pouvais être amie avec eux, alors que je suis noire. Les gens me disaient, tu veux être blanche ou quoi, vu que tu aimes ces types? Mais je ne voyais pas leur couleur de peau. C'était juste les Beatles. Ils n'avaient pas de couleur. Et ils étaient géniaux.
Arte, 20h55, Sing Street et les Beatles à 22h40.
Oh, c'est génial, ça va rythmer ma soirée. Ah non, superbe soirée. On a mis les oreilles sur la musique de Sing Street et des Beatles. On met un petit œil sur le week-end.
Ah bah demain, si on va rester dans le thème de la musique, vous avez une nouvelle enquête de Good Singers sur TF1. Vous connaissez le principe, des candidats face à eux, des enquêteurs comme Benabar, Julie Zinati et d'autres. On donne des indices aux enquêteurs qui doivent dire, deviner si oui ou non les candidats qu'ils ont en face d'eux sont des chanteurs.
Moi, c'est un truc un peu évident, non, faut pas se méfier des évidences. Ça peut pas être un piège.
La 3, moi je pense, c'est une rappeuse.
Sandy est une rappeuse.
Et à la fin, on vérifie et parfois il se plante.
Ouais.
On va arrêter, ça fait mal.
Oui,
donc c'est ça, pas c'est une samedi soir. Voilà, demain soir, non. Demain soir TF1. D'accord. Dimanche, si le temps s'y prête, allez donc voir le Capital d'M6 avec le business des pique-niques. Et s'il pleut, bah tiens, faites-vous une toile sur Canal+. On va boucler la boucle avec le programme de ce soir, puisque Canal diffuse une comédie britannique signée Danny Boyle qui rappelle le film Jean-Philippe, Yesterday. D'accord. L'histoire d'un homme renversé par un bus qui, à son réveil, et alors que la Terre a été frappée par un blackout de 12 secondes, se rend compte qu'il est le seul à connaître les chansons des Beatles.
Oui. Oh, I believe in yesterday.
Oh bah, quand est-ce que t'as écrit ça?
C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça. Les Beatles.
Qui?
C'est très drôle, 21h, ah oui. Canal dimanche soir.
Jean-Philippe avec,
bah oui,
Johnny Hallyday, bien sûr.
Johnny,
vous voulez que je chante une petite chanson? Parce que moi je suis le sosie officiel par exemple de Chris Isaac. Je peux vous faire With You, comme ça. Non, vous voulez pas?
Non.
Non, d'accord. Donc ce soir, on a bien compris, beaucoup de musique et tout au long du week-end également. Merci à vous, Laurent Marsic. À très vite.
RTL Soir.
www.rtl.fr.
RTL. Il est 18h31.
RTL Soir.
Christophe Paco.
Avec le rappel des principaux titres de l'actualité et une semaine de rodage pour maîtriser les contraintes liées à l'extension du pass sanitaire dès lundi prochain, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Les Jeux Olympiques de Tokyo, ça passe pour les filles du hand, finale dimanche face à la Russie. Ça a craqué malheureusement pour les demoiselles du basket battues par les japonaises. Elles vont tenter d'obtenir du bronze demain soir. Et puis à 4h30 demain matin, réveillez-vous la France. Oui, grande finale France-USA, finale basket bien sûr. Et si le génialissime Léo Messi arrivait à Paris au PSG cet été. C'est une possibilité, une probabilité, alors que ce matin, on apprenait son divorce avec son club de toujours, le Barça. Messi en Ligue 1, joli coup, à l'orée d'une saison qui débute ce soir par un grand choc, évidemment, en Principauté de Monaco. Monaco face à Nantes, à suivre sur RTL ce soir avec Eric Silvestro dès 20h et Giovanni Castaldi. Et puis n'oubliez pas, la 30e nuit des étoiles, ça débute ce soir en pour apercevoir des satellites, mais aussi quand même des étoiles. On a bien compris, la grande ours qui sait, et puis toutes ces petites étoiles que vous adorez juste au-dessus de vous, comme la grande ours, on en parlait tout à l'heure. Je sais que vous l'adorez, cette grande ours, Valérie Quintin.
Oui.
On va la voir ou pas, parce que le week-end est pourri, je le rappelle.
Oui, c'est vrai que le week-end est copieusement pourri, et surtout demain d'ailleurs, à la limite ça irait un petit peu mieux dimanche. Demain on va avoir de très gros orages entre les Pyrénées, le Massif central, la région Rhône-Alpes et le Jura. Localement on aura de la grêle, de bruit, de fortes rafales de vent, des trombes d'eau, bref, ce sera pas une partie de plaisir. À l'avant, près de la Méditerranée, quelques averses également, excepté en Corse où il fera grand beau toute la journée, puis à l'arrière des averses orageuses assez fréquentes entre le nord, l'Île-de-France, les régions centrales et l'ouest. Dimanche, un peu moins de pluie, en tout cas plus d'orages, retour du soleil en PACA et en Corse. Ailleurs, on va garder nos nuages, nos averses quand même, faut pas exagérer, une amélioration en deux temps. Les températures demain et dimanche d'ailleurs seront parfaitement stationnaires. Demain après-midi, on aura 19 degrés au Havre, 21 à Lille, 22 à Paris et Bordeaux, 26 à Grenoble et 32 à Ajaccio.
La semaine prochaine, vous l'avez promis, Valérie.
Oui, hein, oui, ça va aller mieux.
Tous les deux.
Alors, je dis pas que ça ira mieux toute la semaine.
C'est l'été ou pas?
Alors, presque, oui, les températures vont grimper, le soleil va être un petit peu plus généreux lundi, mardi et mercredi avant l'arrivée de nouveaux orages pour la journée de jeudi, mais d'ici là, on sait jamais. Peut-être que ça va rester au beau.
On sait jamais. J'ai vu des bouquets de fleurs. Je sais pas si c'est pour nous.
Non, c'est pas pour nous.
Non, j'ai vu des médailles aussi. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Bonsoir Jean-Michel Rascol, bonsoir Marie Portolano.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe.
Ravi de vous retrouver. Il y a des finales incroyables. On espérait 5 sur 5, on a 4 sur 5 pour le Sport Co. C'est pas mal, garçon des filles.
C'est très bien. Vous allez voir, vous allez tout savoir dans On refait les jeux.
C'est vrai, on peut pas savoir
tout,
maintenant.
Tout.
D'accord, faut écouter la radio.
Exactement.
C'est bien.
Et deux belles ambassadrices de la natation artistique.
Ah, mais je fais. Ah, synchronisé, vous voulez dire?
Artistique.
C'est le nouveau
ça s'appelle
nom.
Comme ça
artistique, c'est le nouveau nom.
Ah, parce que moi, je faisais de la synchro avant.
Oui.
Avec une pincette. Puis j'ai abandonné.
Ça se voit, ça se voit.
Bah, j'ai paumé la pincette. Bonne émission jusqu'à 19h.
Merci Christophe.